10 journées qui ont fait le Québec, c'est 10 dates clés qui vous permettent de découvrir les grands moments de notre histoire. Aujourd'hui, le sociologue et historien Denis Delage nous fait revivre toute l'importance de la signature de la Grande Paix de Montréal. Ce soir, M. Delage nous raconte ce qui a permis la signature de la Grande Paix de Montréal. Et ce qui a fait que le 4 août 1701, une alliance décisive a été conclue entre les Français et près d'une quarantaine de nations amérindiennes. Monsieur Delage, cher public, bonne conférence.
Merci. Après plus d'un siècle de guerre, Montréal était le lieu de la ratification d'une grande paix et sont venus à Montréal environ 1300 ambassadeurs d'une quarantaine de nations, de provenance de territoires aussi vastes que de l'Acadie jusqu'aux prairies, puisqu'il y avait des Sioux, du bassin de la baie James et du nord du lac Supérieur, jusqu'au Missouri, dans la région actuelle de Saint-Louis. La paix a été ratifiée entre, d'une part, le réseau d'alliances des Hurons et des Outaouais et les Français, et d'autre part, la Ligue des Cinq Nations iroquoises. Alors, qui étaient les signataires? Alors, ce grand réseau d'alliances qui regroupait les nations amérindiennes et les Français était composé, bien sûr, des Français. D'Acadie venaient les Abénakis, qui représentaient peut-être également les Abénakis de Saint-François. Il y avait également les Amérindiens, les Iroquois domiciliés de la région de Montréal. À partir de 1667, il y a des Iroquois catholiques qui sont venus habiter près de leurs confrères catholiques de la région de Montréal. Donc, il s'agit des Iroquois de la Prairie, ensuite Sault-Saint-Louis, qui est devenu Kanawake, et des Iroquois qu'on appelait de la montagne, c'est-à-dire qui habitaient au pied de la montagne du Mont-Royal, sur le terrain actuel du Grand Séminaire de Montréal. Ultérieurement, ces Iroquois ont déménagé à Oka. Il y avait des Algonquins qui venaient de l'Outaouais, des Cris qui venaient du bassin de la baie James, on ne sait pas exactement de quelle région, mais grosso modo du bassin de la baie James, des Amicouis, le mot veut dire « nation du castor », qui venaient du nord du lac Supérieur. Des Grands Lacs venaient plusieurs nations appartenant à un regroupement ou une quasi-fédération des Outaouais, région du lac Huron et Supérieur, les Ojibwés et les Sauteux de la grande région du Sault-Sainte-Marie, les Hurons Wyandot de Michilimackinac. Michilimackinac, c'est le nom, maintenant on dit Mackinac seulement, mais Michilimackinac, ça veut dire « grande tortue », Michi, ça veut dire « grand », et Mackinac veut dire tortue, comme Michi-Sipi. Michi veut dire grand fleuve, Michi-grand et Sipi fleuve. Il venait de Michilimackinac, qui est une île qui est située à la rencontre des lacs Huron et Michigan, qui était un lieu de rencontre très important pour les Amérindiens et qui renvoie à un lieu sacré également, puisque dans beaucoup de récits mythiques, à l'origine, la terre était une grande tortue et peut-être bien que cette tortue, c'était cette île à la rencontre de deux grands lacs. Venaient également de ces régions les Miami de l'Indiana, non pas de Floride, mais de l'Indiana, les Saki, les renards du Wisconsin, les Folavoine ou Malumine qui venaient du sud du lac Supérieur, les Poutawatami, des alliés très proches des Français qui venaient de la région de Chicago, des Prairies sont venus des Sioux, du Mississippi, de nombreuses nations, de la Fédération, de la Confédération des Illinois. Toutes ne sont pas venues, cependant, je expliquerai pourquoi dans 2 minutes. Les signataires du côté des Iroquois étaient les représentants de la Ligue des Iroquois, de cette confédération représentée métaphoriquement par une grande maison. Le nom Iroquois a été donné par leurs ennemis, et ça veut dire les assassins, mais eux-mêmes s'appelaient les habitants de la Maison Longue, donc les Odono-Sonis. Et métaphoriquement, ils représentaient leur confédération comme une très grande maison qui couvrait une grande partie du de l'État actuel de New York, depuis Albany jusqu'à Niagara. Au centre, il y avait leur capitale qui était tenue par les Onondagas, et la capitale s'appelait Onondaga. À l'extrême est, les Mohawks ou les Agnés, dans les documents français de l'époque, étaient les gardiens de la porte de l'est pour le territoire iroquois. À l'ouest, les Tsonontouans ou Seneca étaient les gardiens de la porte de l'ouest, de cette grande maison métaphorique. Et de part et d'autre du feu central, deux autres nations, les Oneyoutes ou Oneida, les Goyongouins ou Cayuga. Je donne les deux noms parce que les noms les plus courants actuellement sont les noms anglais, mais dans les documents à l'époque, on utilise toujours les noms français, donc Goyongouins plutôt que Cayuga. Une délégation de 1300 ambassadeurs qui arrivent à Montréal, c'est pas rien, puisque la petite ville de Montréal comptait 1500 habitants, donc il y a presque autant d'ambassadeurs que la population de Montréal. La région de Montréal compte à peu près 3500 colons, et à l'époque, les Iroquois chrétiens établis près de Montréal, à Kanawake et à la montagne, étaient au nombre d'à peu près 1500. Donc, il y avait autant d'Iroquois chrétiens qui avaient de colons dans la petite ville de Montréal. Ces fédérations, ces alliances étaient très anciennes. L'origine de la Fédération Huronne, vous savez par l'histoire que vous avez apprise, qui a été détruite en 1649, comme l'origine de la Fédération iroquoise, remonte très certainement au moins au 16e siècle, mais plus probablement au 14e siècle. Ces réseaux d'alliances étaient également très anciens. Ils étaient, pour ce qui est de celui auquel les Français se sont joints, le réseau d'alliances des Hurons et des Outaouais existait avant l'arrivée des Européens, et il était aux dimensions de cette grande paix, c'est-à-dire il était de temps préhistorique aux dimensions de cette grande paix, c'est-à-dire qu'il couvrait en gros les bassins fluviaux du Saint-Laurent et du Mississippi. Manière de dire donc que notre histoire ne commence pas en 1608. L'établissement permanent des premiers Français remonte à 1608. C'est le début de l'histoire pour les descendants des Français, mais notre histoire au Québec est plus ancienne, puisque le Québec remonte à au moins 8000 ans d'occupation humaine, et quant au Canada et aux Amériques, au moins 14000 ans, probablement davantage. Pour s'établir à Québec en 1608, les Français ont dû conclure un traité d'alliance en 1603 avec ces Innus, puisque c'était un territoire Innu. Il y a donc eu à Tadoussac, en 1603, un traité d'alliance entre un chef Innu du nom de Anada Bijou et Gravé Dupont et Champlain, qui représentaient le roi de France et qui ramenaient avec eux deux jeunes Innus qui avaient rencontré Henri IV, qui avait été très bien traité. Et il y a eu trois semaines de célébration avec à peu près 1000 personnes, et une alliance a été conclue en 1603 entre les Français d'une part et d'autre part les Innus qui étaient les autres, les Algonquins qui venaient de l'Outaouais, les Etchemins et Malécites qui venaient d'Acadie, et ces trois nations étaient elles-mêmes alliées aux nations de la baie James et aux nations des Grands Lacs. Les Innus étaient, en 1603, les grands intermédiaires dans la traite des pelleteries à Tadoussac. Les bateaux qui venaient à la pêche dans le golfe se rendaient à Tadoussac pour faire la traite, et les Innus attendaient qu'il y ait plusieurs navires pour avoir les meilleurs prix possibles, empêchaient les Français de remonter le Saguenay, et empêchaient les Indiens de l'intérieur, leurs fournisseurs de fourrure, de venir négocier directement. C'est eux, donc, qui avaient le contrôle de ce commerce. Les Innus faisaient ce commerce, mais non pas par le Saint-Laurent, par l'intérieur des terres, parce qu'ils étaient en guerre avec la Ligue iroquoise qui, elle, cherchait, elle aussi, à avoir accès à ces nouveaux produits dans le Golfe. Mais le contrôle est assuré par les Innus et leurs alliés, et les Iroquois donc bloquaient la circulation sur le Saint-Laurent ou tentaient eux-mêmes d'avoir accès à Tadoussac. Et c'est ce qui fait que les nations des Grands Lacs ne se rendaient pas à Tadoussac par le fleuve, mais par l'intérieur des terres, c'est-à-dire par l'Abitibi. En 1603, donc, les Français se sont intégrés à un vaste réseau préexistants, et ses alliés ont demandé à leurs nouveaux partenaires français son aide militaire, et c'est la raison pour laquelle Champlain a conduit trois attaques contre les Iroquois, deux escarmouches en 1609 et en 1610, et une attaque un peu plus sérieuse contre un village iroquois près du sud du lac Ontario en 1615. Et c'est l'origine du conflit franco-iroquois, mais encore une fois, ce conflit est plus ancien. Les Français se sont joints à une guerre qui préexistait à leur arrivée. Le conflit s'est résorbé ultérieurement pour un certain nombre d'années, puisque les Néerlandais se sont établis à la Nouvelle-Amsterdam devenue New York, à Fort Orange devenu Albany, et les Iroquois ont eu accès justement aux produits qu'ils recherchaient, et ils n'ont pas eu le besoin de continuer de faire la guerre pour obtenir ces marchandises. Cependant, à partir des années 1620, mais surtout 1630 jusqu'à 1701, il y a eu une période de guerre presque continuelle, entrecoupée de trêves, dont nous ne ferons pas l'histoire détaillée, mais que l'on se rappelle que c'est une période de guerre quasiment constante. La guerre n'est pas une création des Européens en Amérique, la guerre n'est pas introduite par les Européens en Amérique, sauf que la guerre en Amérique prenait des formes différentes de celles de l'Europe. La guerre en Amérique ne visait pas principalement l'acquisition de territoires, elle n'avait pas non plus principalement des mobiles économiques, elle répondait à des mobiles sociaux et démographiques. La guerre comme manière de se distinguer, de s'opposer de l'autre et de bâtir sa propre solidarité. La guerre comme épreuve incontournable pour fabriquer sa masculinité, un rite de passage pour les jeunes hommes. La guerre sur le mode de la chasse ou de la capture pour s'accaparer de la force de l'autre, sur le mode du rapt où on fait des prisonniers. Évidemment, tous les prisonniers n'ont pas la vie sauve, mais la plupart ont la vie sauve et ils sont intégrés de force, bien sûr, dans la société de leurs ennemis où ils doivent prendre la place des morts.
L'historien Maxime Goyer, dans un colloque sur la recherche relative aux Autochtones, nous explique que les prisonniers capturés étaient non seulement adoptés par des familles en deuil pour remplacer des individus morts prématurément, mais qu'en plus, le captif devait alors prendre le nom, le rôle social et les responsabilités de celui qu'il remplaçait. L'objectif visé était de maintenir l'équilibre dans les forces de production au sein de la communauté. Mais ces guerres de deuil, parce qu'elles étaient pratiquées par la plupart des nations, avaient généralement pour effet d'entraîner une réplique de la part de la nation agressée et engendrer ainsi un cycle de violence particulièrement difficile à rompre.
Cependant, la guerre s'est fortement intensifiée au XVIIe siècle pour plusieurs raisons. La première, c'est que le commerce qui relie l'ensemble des partenaires à l'époque, européens et amérindiens, c'est la traite des pelleteries. La production des fourrures, elle est très ancienne dans les communautés. On produisait, on chassait les animaux à fourrure pour se vêtir, pour faire les raquettes, etc. Mais le piégeage des animaux à fourrure ou la chasse visait la consommation locale. Or, la traite des pelleteries vise un marché, répond aux besoins d'un marché étranger, d'un marché européen, où la demande est énorme, en particulier au XVIIe siècle, qui est un siècle froid. On a besoin de fourrures. Celles qui viennent de Russie coûtent très cher. On peut en avoir moins cher ici. Et donc, les Amérindiens se mettent à produire nettement plus de fourrures qu'auparavant et ils vont chasser au-delà des capacités de reproduction des espèces. Et une fois leur territoire vidé, bien là, on va aller sur le territoire de l'autre, ce qui est une source de conflit, une source de guerre. Ensuite, je passe rapidement, mais l'arrivée des Européens, en particulier sur la côte atlantique, sera l'occasion de nombreuses guerres pour refouler les populations autochtones qui occupaient la côte dans ses mains. Et à partir des années 1660, les rivalités entre les couronnes européennes en Amérique seront également des sources de guerre. Nous allons cerner, donc vous comprenez que j'essaie de vous tracer un grand portrait avant d'arriver au 4 août, il faut qu'on sache d'où ça vient et qui est là. Alors, je vais vous tracer le portrait de quatre grands acteurs de cette grande paix de Montréal. Il importe donc de camper les acteurs avant ce dénouement de 1701, de voir ce qu'ils étaient les enjeux, les intérêts, les stratégies, les forces et les faiblesses des uns et des autres. Alors, ces quatre acteurs sont premièrement le grand réseau d'alliances des Hurons et des Outaouais auxquels les Français se sont joints en 1603 par l'intermédiaire des Innus. Ensuite, le camp adverse, celui des Iroquois. Ensuite, les Français et enfin les Néerlandais et les Anglais. Alors, commençons par le réseau d'alliances Huron-Iroquois. C'est donc ce réseau qui a intégré, absorbé les Français et non pas l'inverse. Mais par ailleurs, cette intégration des Français a été source de plusieurs tensions à divers égards. La première tension, elle est apparue à la fondation de Québec, puisque en s'installant à Québec, les Français ont travaillé à déloger les Innus de Tadoussac dans leur rôle d'intermédiaire dans la traite des fourrures. Champlain a obtenu qu'il y ait un monopole sur la traite des fourrures pour qu'il y ait très peu de bateaux qui viennent à Tadoussac. Donc, les Innus n'avaient plus la possibilité de mettre un grand nombre de bateaux en concurrence les uns contre les autres. Et puis, les Français ont voulu faire le commerce directement avec les pourvoyeurs des Innus. Ils l'ont fait avec les Algonquins et avec plusieurs nations. Et donc, ils ont court-circuité les Innus qui étaient furieux et qui ont pensé sérieusement à deux reprises à refouler les Français à la mer, mais qui n'y ont pas réussi à cause des divisions entre les nations dans l'Alliance. La deuxième source de tension tient au fait que les Français qui venaient ici ne venaient pas comme immigrants dans les sociétés européennes, mais ils venaient comme porteurs de la civilisation et de la foi parmi des peuples sauvages, païens, sans feu, ni lieu, ni foi, ni loi, ni roi. En somme, on pourrait dire une arrogance coloniale, mais néanmoins, ce n'est pas un facteur marquant puisque les Français ont été au départ, en particulier, extrêmement dépendants à l'égard des Amérindiens. Comment circuler sur le territoire, comment vivre l'hiver, comment se nourrir. Ils ont beaucoup appris et on a développé des rapports de proximité. L'exemple le plus extraordinaire, c'est celui du Père Lejeune, un missionnaire qui va aller camper, faire un campement d'hiver, faut le faire, 20 personnes qui partent dans le bois et se nourrir et survivre pendant tout un hiver. Donc, il le fait une première fois et il a des remarques plutôt dures à l'égard de ses autres parce qu'il trouve qu'en somme, c'est un environnement très inconfortable. Mais il se chicane avec le chaman. Mais une vingtaine d'années plus tard, il écrit un remarquable texte de relativisme culturel, un des plus beaux textes de relativisme culturel, 1658, en disant que chacun à sa manière, ce qui apparaît remarquable pour les uns ne l'est pas pour les autres. Les Français trouvent que les Amérindiens mangent très mal et n'ont pas de belles manières de table. Les Amérindiens trouvent que les Français sont dégoûtants de se moucher dans un mouchoir et de mettre le tout dans leur poche. Voici quelle est la belle manière de danser des uns et des autres. Alors, le père dit, outre Dieu, tout est relatif. Donc, dans ce contexte, l'on s'interpelle comme étant des frères. Le gouverneur français, les chefs indiens sont des frères, donc se parlent sur un pied d'égalité. Autre source, mais je reviendrai sur cet aspect, autre source de tension, les épidémies. Comme les Indiens meurent beaucoup plus, on se pose constamment la question, est-ce que les Français ne nous font pas mourir? Est-ce qu'ils n'ont pas un pouvoir de sorcellerie pour nous tuer? Question compréhensible à l'époque. Nous sommes avant Pasteur, on ne connaît pas les microbes, on ne connaît pas les modes de circulation, de transmission des épidémies, sauf de manière très peu élaborée.
Le mauvais sort se résumait en fait à l'unification microbienne du monde à laquelle le système immunitaire des Amérindiens n'était pas du tout préparé à faire face. Ainsi, la variole, le typhus, la rougeole, le choléra, les fièvres typhoïdes, la grippe, le rhume, la scarlatine, la rubéole, la diphtérie, la coqueluche, la blénorragie et la syphilis fauchèrent 95 % de la population autochtone dans les deux siècles suivant les premiers contacts avec les Européens, rapporte Denis Delage, sociologue et historien, dans son texte « Microbes, animaux et eau en Nouvelle-France ». Seule la syphilis existait déjà dans les Amériques, mais elle devint alors encore plus virulente. En fait, cette catastrophe, ce dépeuplement, n'a pas de commune mesure dans l'histoire de l'humanité.
Enfin, il y a eu la question des armes à feu qui était décisive. Les alliés des Français voulaient obtenir des armes pour se défendre contre les Iroquois, et les Français n'ont pas voulu vendre d'armes à leurs alliés, craignant qu'éventuellement ces armes, ils les retournent contre eux. Ils ont limité la vente d'armes aux seuls convertis, alors que les Iroquois, eux, obtenaient des armes en quantité abondante de la part des Néerlandais et des Anglais, si bien que la Huronie a sombré et que les Iroquois ont gagné ces guerres, comme vous savez. Mais après cette défaite, le grand réseau d'alliances s'est réorganisé autour des Outaouais, qui ont longtemps hésité entre rallier les Iroquois, aller chez les Anglais, qui offraient d'ailleurs des marchandises à meilleur prix, mais ils détestaient les Iroquois qui leur avaient fait la guerre, ou opter pour les Français. Ils ont finalement pris le parti de demeurer dans l'alliance avec les Français. Cet effet combiné de ces défaites militaires des alliés des Français, parce que les Iroquois ont vidé le sud de l'Ontario de ses populations sédentaires, et ils ont mené des guerres jusque dans le Saguenay, donc à très grande échelle. Donc la défaite de ses alliés aux mains des Iroquois, l'effet des épidémies qui les réduisent en nombre encore terriblement, tout ça a eu pour effet de modifier les rapports entre les Alliés et les Français. Et il y a un document des années 1660 où un Huron du nom de Sastaretti vient voir le gouverneur, et le gouverneur Montmagny, et il lui dit « Désormais, tu seras mon père, je serai ton enfant, nous ne sommes plus des frères. Mais comment t'appelles-tu ? » Et on lui répond « Montmagny ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « Montmagny » ? C'est un mot français, un Huron ne comprend pas ce que ça veut dire. Ah, ça vient du latin « monte magnus »,« ah, onontio », un Huron. Et donc, à partir de ce moment-là, les Indiens vont toujours appeler le gouverneur « onontio », ce qui est dérivé donc de « Montmagny » et qui veut dire « grande montagne ». Et les Indiens disent « désormais, tu seras notre père » et nous serons tes enfants. Les Français disent « extraordinaire », les Indiens acceptent de se soumettre à notre pouvoir, nous allons pouvoir leur commander, ils devront nous obéir, parce que leur référence est le système de parenté patriarcal européen, dans lequel le père est investi d'un grand pouvoir sur sa chère épouse et sur ses enfants. Il n'en allait pas de même pour les Amérindiens, leur référence est le système de parenté des Iroquois, dans lequel l'autorité sur les enfants s'exerce par la mère, bien sûr, et par le frère de la mère, donc l'oncle maternel. Le père est un pourvoyeur, un protecteur, qui a autorité morale sur les enfants de ses sœurs, mais pas sur les enfants du couple, pas sur les enfants qu'il a avec sa mère. Donc, dans la logique amérindienne, on n'a pas dit « toi, Onontio, tu seras notre oncle », on l'a dit « tu seras notre père ». Donc, notre père, ça veut dire « tu es notre pourvoyeur, tu nous donnes les marchandises dont on a besoin, tu es notre protecteur, tu nous assures ton soutien militaire, mais tu ne nous commandes pas ». Ce qui veut dire que les nations amérindiennes, même affaiblies, demeuraient souveraines, qu'elles n'étaient pas assujetties, bien qu'un lien de dépendance est en train de se créer, puisque il y a un pouvoir hégémonique des Français qui est en train d'émerger, puisque Onontio est la référence pour l'ensemble des nations.
Sur le quatrième de couverture du livre de l'historien Maxime Goyer, « Onontio, le médiateur, gestion des conflits amérindiens en Nouvelle-France, 1603-1717 », on peut lire ceci. « Celui que les Amérindiens appelaient communément Onontio, qui signifie la grande montagne ou la belle montagne, traduction huronne du nom de Charles Huot de Montmagny, premier gouverneur de la Nouvelle-France, non seulement était-il leur père au sein de l'Alliance, mais il se présentait aussi comme le médiateur de la paix publique, l'arbitre absolu de la guerre et de la paix, ou même le maître des casse-têtes, pour reprendre une formulation amérindienne. Contrairement aux autres puissances européennes, les Français ont moins cherché à diviser pour régner. Ils ont plutôt misé sur la paix entre les Autochtones pour consolider leur empire. Et l'un des moments clés dans l'histoire de la médiation française est sans contredit la Grande Paix de Montréal, signée le 4 août 1701 par les Français et une quarantaine de nations amérindiennes.
Mais ceci nous amène à dire, néanmoins, si ces nations sont souveraines, qu'il faut lire avec attention les cartes de la Nouvelle-France. Les cartes de la Nouvelle-France ne représentent pas une France nouvelle en Amérique, où le roi règne sur toutes les populations de Québec à la Nouvelle-Orléans, puisque les nations autochtones sont souveraines et puisque les ordres, ce qui se présente comme ordre transmis par le gouverneur aux nations des Grands Lacs, est reçu comme des propositions dont, que l'on va débattre et dont on va disposer à sa guise. Cependant, certes, le pouvoir français aspire à la souveraineté, aspire à s'imposer, mais ce n'est pas encore réalisé dans les années 1660, ni même un siècle plus tard. Par ailleurs, les prises de possession de territoires que les Français vont faire, par exemple, à Sault-Sainte-Marie, où on érige une croix aux emblèmes du roi, et il y a un notaire qui enregistre la prise de possession, dont le document sera expédié à Versailles. Ce sont sur papier des documents de prise de possession pour la diplomatie européenne, où on pourra dire aux Anglais « Ah, c'est nous qui avons découvert les premiers en vertu du droit international. Ce territoire nous appartient parce que nous l'avons découvert le premier. » Autre crainte des Amérindiens alliés à l'égard des Français, ils ont peur d'être trahis par les Français qui feraient une paix directement avec les Iroquois sur leur dos, sans négocier avec eux et sans leur demander l'autorisation et sans les intégrer dans les négociations. Et ils ont raison parce que ça s'est fait à plusieurs reprises. J'en retiens deux. Les Hurons qui se sont réfugiés à Québec sont allés vivre un bout de temps à l'île d'Orléans et les Iroquois ont décidé d'aller les attaquer pour faire un grand nombre de prisonniers, ce qu'ils ont réussi. Les Français les ont laissés passer et repartir avec les prisonniers parce qu'ils souhaitaient avoir la possibilité d'aller s'installer eux-mêmes chez les Iroquois et y envoyer leurs missionnaires. L'autre exemple, c'est le gouverneur Labarre qui tente une invasion d'un village iroquois au sud du lac Ontario. Son projet échoue, il est obligé de signer une paix honteuse pour la France. Et dans cette paix, il accorde aux Iroquois le droit d'aller attaquer ses propres alliés, les Illinois. Évidemment, les Illinois en sont finalement informés. Et donc, les Indiens ont toujours cette crainte d'un jeu qui se fasse ou d'une entente qui se fasse entre Iroquois et Français sur leur dos. Par ailleurs, les Alliés veulent bien faire la guerre aux Iroquois, mais non pas les anéantir pour deux raisons. Parce que les Iroquois sont un verrou qui empêche les Anglais de venir dans les Grands Lacs. Les Iroquois interdisaient aux Anglais de construire des forts ou de s'établir dans les Grands Lacs. Et ils sont aussi un contre-pouvoir pour les Français, et si on anéantit les Français, les Iroquois, les Français pourraient être trop puissants. Puis l'autre élément, c'est que l'immigration française est une immigration principalement masculine au XVIIe siècle. Autour de 1660, sur la piste de danse à Québec ou à Montréal, vous avez 7 pauvres jeunes hommes et une belle créature. Et les autres se demandent ce qu'ils vont faire sur place. Enfin, on se demande ce qu'ils vont faire sur place. Il y a donc 3 hommes sur 7 qui vont dire « Nous, on retourne en France. » Et 3 sur 7 qui disent « Non, on s'en va dans les pays d'en haut, traite des fourrures et on va aller se marier là-bas. » Et donc, il y a un grand nombre de jeunes hommes, coureurs de bois, voyageurs, qui partent de Montréal et qui vont s'établir dans les Grands Lacs et qui vont marier des Amérindiennes. Le couple d'un Français ou Canadien et d'une Amérindienne sera au fondement de la traite des fourrures. Ça correspond en même temps absolument aux traditions amérindiennes de toujours faire en même temps du commerce, organiser des mariages et de toujours circuler pour le commerce dans la parenté. Proximité culturelle aussi parce que ces jeunes coureurs de bois, ces voyageurs sont généralement analphabètes. Ils sont porteurs d'un très riche corpus de contes, de légendes, de chansons de souche indo-européenne qui vont absolument passionner les Amérindiens. Les Amérindiens vont prendre ce corpus et l'intégrer dans leur propre corpus de légendes et de mythes. Enfin, il y a aussi une grande, curieusement, même s'ils relèvent de deux univers complètement différents, une grande parenté entre les chefs autochtones et les aristocrates français. Les deux ont la passion pour les exploits guerriers. Les deux adorent la chasse. Vous savez qu'en Europe, en France, la chasse est un privilège de noble. Les deux aiment le faste et l'apparat. Les deux aiment l'art oratoire. La tradition de l'art oratoire chez les Autochtones est très importante. Les deux aiment l'ostentation, le potlatch. Pas mal mieux qu'un marchand protestant vêtu de noir qui travaille toute la journée et toute l'année à accumuler son bien. Alors, voilà pour pour ce premier acteur.
Les Amérindiens apportèrent beaucoup aux colons français. À leur contact, c'est d'ailleurs tout leur rapport à l'eau qui changea. Comme l'explique le sociologue Denis Delage, l'Europe au 16e et 17e siècle avait fermé ses bains publics que l'on croyait cause d'épidémies. L'eau, particulièrement l'eau chaude, apparaissait comme dangereuse car on disait qu'elle ouvrait les pores de la peau. Plutôt que de se laver, on saturait la peau de poudre, de sel et d'huile, on frottait les aisselles de parfum et le visage d'un linge blanc sec. Cependant, l'on ne pouvait s'empêcher de boire. L'eau de la France était alors malsaine et corrompue. On coupait cette eau avec du vinaigre pour en camoufler le mauvais goût, ce qui d'ailleurs contribuait à la purifier. Les riches pouvaient soit boire moins d'eau, soit la choisir. À titre de buveur d'eau, les Amérindiens étaient donc considérés comme des enfants, n'ayant pas encore atteint la condition adulte des Européens, cette civilisation buveuse de vin. Cette peur de boire de l'eau fut transposée un temps en Amérique, alors qu'en 1685, Monseigneur de Laval, craignant d'obliger les employés du séminaire de Québec à ne boire que de l'eau, projetait de faire les frais de la construction d'une brasserie. Graduellement, les colons et l'élite cessèrent d'associer l'eau à la misère et à la maladie. Mais comme en Europe, ils se mirent à la contaminer. Les autorités durent sévir contre les latrines et dépotoirs dans les rues et les berges puantes des ports couvertes d'immondices et de résidus de boucherie. Les Européens furent également frappés par les pratiques d'hygiène des Amérindiens, eux qui semblaient tirer de leur baignade et de leur tente à suer le plus grand bien.
Le deuxième acteur, à l'origine, il s'agit de l'Iroquoisie, un acteur, on pourrait dire, relativement marginal dans le commerce et surtout dans la diplomatie, qui s'est élevé au premier rang par des victoires militaires contre les Hurons en 1649 et toutes les nations du sud de l'Ontario et plus largement des Grands Lacs, qui a rallié de gré ou de force un grand nombre de nations. L'Iroquoisie a aspiré à devenir un petit empire pour rallier la plus grande part des nations autochtones puis essayer de contenir les Européens à la marge tout en négociant et en commerçant avec eux. À vrai dire, leurs objectifs étaient analogues à ceux des Français. Peut-être qu'il aurait été préférable qu'émerge un pouvoir centralisé autochtone en Amérique plutôt qu'un pouvoir colonial européen.
Avant d'entendre M. Delage nous expliquer pourquoi l'Iroquoisie n'est pas parvenue à se constituer en un petit empire, demandons-nous d'où vient l'appellation Iroquois. Car à l'origine, les Iroquois se nommaient Odenosoni, qui signifie « peuplade des longues habitations ». Selon l'archéologue Roland Tremblay, auteur du livre « Les Iroquoiens du Saint-Laurent, peuple de maïs », l'appellation Iroquois remonterait au 16e siècle, alors que des équipages basques sillonnent le golfe et l'estuaire du Saint-Laurent pour y chasser la baleine. Ce faisant, ils rencontrent des groupes algonquiens, ancêtres des Micmacs et des Innus, et développent avec eux des relations d'échange. Ces algonquiens, à leur contact, adoptent le mot basque « Ilokoa », signifiant « les tueurs » pour désigner leurs ennemis qui vivent plus loin, à l'intérieur des terres. À une différence phonétique près, cependant. Comme ils ne prononcent pas la lettre « L », le mot « Ilokoa » s'entend dans leur bouche comme s'il s'écrivait « Iroquoa ». Passé dans l'usage courant au 17e siècle et francisé, cette appellation deviendra « Iroquois ». Retournons maintenant au problème rencontré par l'Iroquoisie.
Mais c'était ça ne pouvait pas se réaliser pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y avait pas de sentiment d'appartenance panamérindienne en Amérique. Les populations coloniales britanniques se sont multipliées très rapidement. C'est devenu un pouvoir que les Iroquois ne pouvaient pas contenir ultérieurement. Et surtout, les victoires des Iroquois ont transformé la composition ethnique de l'Iroquoisie. Auparavant, on faisait la guerre pour introduisait quelques captifs qu'on finissait par intégrer. Mais là, ils se sont retrouvés avec une majorité de captifs dont l'intégration est devenue très difficile. Qui plus est, ces captifs, dans plusieurs cas, étaient convertis. Dans d'autres cas, se sont convertis parce que les Iroquois ont invité les Jésuites à l'habiter chez eux. Et les Jésuites ont converti la plupart des captifs. Pourquoi? Bien, parce que dans l'univers traditionnel autochtone, l'au-delà est la prolongation du maintenant. Dans l'au-delà, l'âme du chasseur chassera avec l'âme des raquettes sur l'âme de la neige, l'âme d'un caribou. Mais ça sera la même vie qui va se transposer. Insupportable, ça, pour un esclave ou pour un captif. On souhaite très bien que l'au-delà soit différent. Alors, quand les missionnaires disent « les premiers seront les derniers », ils ont les mêmes succès qu'on a observé au début du christianisme, alors que les grandes conversions se sont faites auprès des esclaves. Dans ce cas-ci, donc, les captifs se convertissent parce qu'ils trouvent un sens à leur vie, au moins à leur vie à leur vie après la mort, ou à ce qu'il y aurait après la mort. La société iroquoise aurait pu se durcir et devenir esclavagiste, mais elle a plutôt procédé à une scission et il y a eu migration des Iroquois convertis chez les Agnés, la majorité étaient des captifs qui sont venus à la prairie à partir de 1667, à la montagne depuis la prairie, c'est-à-dire de la prairie à Kanawake ou Sault-Saint-Louis, et de là, certains sont allés à la montagne, d'autres sont restés là-bas en 1676, et ils sont venus rejoindre leurs frères catholiques, et ils ont joint l'Alliance des Outaouais, et ils ont été les défenseurs de Montréal contre les attaques iroquoises, entre autres l'attaque de la Chine en 1689, les Iroquois chrétiens de la région de Montréal, qu'on considère comme étant le verrou et la protection de Montréal contre les attaques iroquoises, participent à la défense de la région de Montréal contre les attaques iroquoises. Cependant, la Ligue iroquoise a mené des offensives diplomatiques auprès de ses frères devenus chrétiens, et ils ont négocié et réussi un rapprochement à partir de 1696. Donc, à partir de 1696, les Français de Montréal ne peuvent plus tellement compter sur les Iroquois chrétiens pour aller attaquer les Iroquois de la Ligue. Et pour ce qui est de les défendre, ils sont devenus très proches l'un de l'autre. Ce qui n'empêchait pas les Iroquois faisaient de l'espionnage à Montréal. Il y avait des espions dans les tavernes de Montréal, des espions iroquois, et chaque fois que les parties armées partaient de Montréal pour aller attaquer le territoire iroquois, bien, les Iroquois étaient toujours informés par leurs espions dans les tavernes, si bien qu'on a dû changer de tactique puis informer les militaires qu'une fois qu'on était partis de Montréal, sans quoi les Iroquois, par leurs informateurs, savaient où se dirigeaient les troupes françaises. Il y a aussi un cas bien intéressant, un chef qui s'appelle Ouréouaré, qui était un ambassadeur iroquois qui est allé négocier avec, antérieurement, dans les années 1680, avec le gouverneur de Nonville. Puis le gouverneur de Nonville, au lieu de l'accueillir en ambassadeur, le fait prisonnier, le déporte en France dans les galères. Les Iroquois qui apprennent ça, évidemment, sont absolument furieux. Et pour établir la paix, quand Frontenac revient pour son deuxième mandat, il ramène Ouréouaré avec lui, et ils deviennent de très bons amis et cohabitent un bout de temps. Ensuite, Ouréouaré va servir de négociateur à Kanawake avec la Ligue iroquoise, mais était-il un espion? De quel côté était-il? On ne peut rien prouver, mais on peut penser que les Iroquois avaient un informateur bien placé. Troisième acteur, les Français. Les Français se Donc, on a dit ils se sont joints à un réseau d'alliances en 1603. Ils se sont établis à Québec dans une région où il y avait des nomades, mais où il n'y avait plus de sédentaires. Il y avait du temps de quartier les Iroquois de Saint-Laurent, qui étaient des agriculteurs, des producteurs de maïs, et des fournisseurs de farine de maïs pour les nomades tout autour d'eux. Les Français vont donc remplacer ces anciens fournisseurs de farine de maïs en devenant des fournisseurs de farine de blé pour les nomades qui partaient donc l'hiver avec des réserves de farine pour les campements d'hiver, pour les périodes de creuses de chasse. Les Français étant d'anciens régimes et catholiques sont davantage missionnaires que les protestants. Donc, il y a beaucoup de missionnaires qui vont par les mains amérindiens, qui apprennent des langues, qui font des grammaires et qui connaissent leur société. Ils appartiennent à un régime monarchique où la juxtaposition des castes et des statuts ne fait pas problème. Donc, intégrer les Indiens ne fait pas de problème. Et, aspect bien important, on n'a pas la propriété privée, on fonctionne sur les terres avec la propriété seigneuriale. Donc, un système, non pas de propriété exclusive, mais de droits du prêtre, du seigneur, du roi, des paysans, des glaneurs. Pourquoi ne pas rajouter les Indiens? On pourrait bien faire des contrats pour les colons en disant « les Indiens autour auront droit de venir faire la coupe du bois ou chasser sur vos terres ». C'est par ailleurs, je l'ai souligné, ça a été une erreur des Français de ne pas armer leurs alliés. Et les Français étaient vulnérables au plan économique puisqu'ils n'étaient pas compétitifs. Leur prix était toujours plus élevé. Et surtout, il y avait une tension entre la diplomatie et l'économie. Onontio, comme pourvoyeur, devait fournir les meilleures marchandises à ses alliés et prendre toute leur fourrure. Mais les Français se sont retrouvés avec l'obligation diplomatique d'acheter les fourrures, mais l'incapacité d'écouler ces fourrures sur le marché européen, si bien qu'il y a eu une surproduction et on a dû fermer les postes français à l'intérieur du continent en 1697. Dès lors, la plupart des nations disent on se retourne du côté des Iroquois et des Anglais, ce qui est très risqué. Enfin, les Français étaient vulnérables aux attaques iroquoises et plus vulnérables que les Iroquois ne l'étaient aux attaques françaises. Alors ici, je vais vous lire seulement un tout petit passage de l'historien Bagville Lapotrie, qui est celui qui nous a laissé la plus belle description de la Grande Paix de Montréal. Alors, décrivant donc ces années, ces décennies de vulnérabilité des colons face aux attaques iroquoises, il dit « Le paysan ou l'habitant ne mange pour lors son pain qu'en tremblant. Quiconque sort de son habitation n'est pas sûr d'y rentrer. Ses semences et ses récoltes sont la plupart du temps abandonnées. Le seigneur de paroisse voit toutes ses terres pillées et brûlées. Le voyageur ne voit guère que la nuit. » Bon, alors, les Français sont vulnérables. En revanche, les invasions iroquoises de l'Iroquoisie, la mise à feu de leurs villages, de leurs récoltes, y compris de leur capitale Onondaga, n'ont pas brisé la résistance. Et enfin, les Français non plus n'avaient pas intérêt à détruire complètement l'Iroquoisie, puisqu'ils auraient eu ensuite les Anglais qui se seraient présentés au lac Ontario.
Le concept de propriété privée chez les Amérindiens leur était traditionnellement étranger. Comme on peut le lire sur le site grandquebec.com, en Nouvelle-France, l'Indien se concevait comme un élément parmi d'autres de la nature, à l'égal des animaux, des poissons et des plantes. La terre n'était pas sa propriété. Il ne pouvait concevoir de la vendre ou de l'échanger. Le commandant Antoine Lomet de Cadillac, qui favorisera la distribution d'eau-de-vie aux Amérindiens, se verra offrir cette réponse par le chef Huron, 40 sols, lorsqu'il tentera de se comporter en seigneur avec cette nation. « Cette terre n'est pas à vous pour nous la donner. » Car dans la tête des Amérindiens, autoriser des colons à s'établir sur leur territoire n'équivalait pas à leur en céder le droit de propriété.
Alors, nous arrivons après ce grand portrait, au préliminaire de la Grande Paix. Alors, au terme de plus d'un siècle de conflit, on atteint un point d'équilibre, personne ne peut gagner et tous trouvent intérêt supérieur à la paix, Il y a donc eu 4 années de longues et délicates négociations, des négociations multilatérales menées à Michilimackinac, donc cette île et qui est le rendez-vous des nations des Grands Lacs, à Onondaga, la capitale iroquoise, à Montréal. Un traité provisoire est conclu avec et signé en septembre 1700 à Montréal, qui comprend pour clause la cessation des hostilités, l'échange multilatéral des prisonniers, ce qui veut dire que l'année, on prévoit se rencontrer à Montréal en août de l'année suivante, chacun devant ramener ses prisonniers, et on demande aux nuncios d'être les médiateurs. Les principaux artisans, sans qu'on entre dans le détail de cette grande paix, sont le chef Huron Condiaron, Meskadoué, un Abénaki, Onongissé, un Poutéwatami, Teganisoren, son Iroquois, qui lui a dit « Je suis d'accord » et il a convaincu les factions pro-anglaises et pro-françaises d'accepter plutôt la neutralité. Et il a dit « Je ne me rends pas à Montréal pour la conclusion de la paix, je reste sur Manat à Onondaga et j'exprime ainsi la neutralité des Iroquois à l'égard des Français et des Anglais. » Et enfin, comme dernier acteur, bien sûr, le gouverneur Frontenac qui décède et qui est remplacé par le gouverneur Callière. Alors, passons à la ratification. Les premières ambassades arrivent le 21 juillet 1701, non pas à Montréal, mais à Kanawake, et toutes les délégations autochtones arrivent d'abord à Kanawake avant de se rendre le lendemain à Montréal. Kanawake a aussi beaucoup contribué au rapprochement des Alliés. On arrive à Kanawake et à Montréal après un voyage venant d'Iroquoisie par le Champlain-Richelieu ou le Saint-Laurent de facilement 4 semaines, venant des Grands Lacs, le Michilimackinac, mettez 6 semaines, vous venez du pays des Illinois dans le Mississippi, mettez facilement 8 semaines. Toutes les nations sont venues, sauf les Agnés ou Mohawks qui sont arrivés après la conclusion de la paix, mais qui l'ont ratifiée. Quand on arrive à Kanawake, on est reçu par des salves d'armes à feu et on procède à une grande cérémonie dans la tradition autochtone qu'on appelle la cérémonie de condoléances de l'orée du bois. C'est un rituel préliminaire de négociation où chacun exprime sa douleur pour ses morts et pour ceux de son ennemi dont on se réjouissait auparavant, mais désormais on pleure tous les morts, les siens et ceux de ses anciens ennemis. Ce rituel consiste à offrir 3 branches de porcelaine ou de wampum. Dans les documents d'époque, on dit toujours porcelaine. La première pour essuyer les larmes et pleurer les morts. La deuxième pour déboucher les gorges afin que chacun parle avec sincérité. Ensuite, déboucher les oreilles pour s'ouvrir à la parole de l'autre. Un troisième pour essuyer la natte de sang qui couvre le sol des demeures endeuillées. On échange ensuite le calumet. On le fume et dans la boucane commune, on partage un même esprit de paix. Suit un grand festin, danse et musique. Le lendemain, 22 juillet, 200 canots alignés traversent de Kanawake ou Sault-Saint-Louis à Montréal, sont reçus au bruit des salves de canons. Les arrivants cabanent le long de la palissade de Montréal, située autour là, du musée de la Pointe-à-Calière. Parmi ceux-ci, Texancot, un Tsonotouan ou Sénéca, 80 ans, debout dans son canot, criant « Aïe, aïe, aïe » et pleurant à chaudes larmes les morts, pour que tout le monde l'entende. Les Iroquois, quant à eux, ne campent pas avec les autres. Ils sont reçus dans la maison de Paul Lemoine de Maricourt, qui est un négociateur français, auprès des Iroquois, comme l'a été son père, qui parle Iroquois comme son père le parlait, qui a été adopté par les Iroquois, il est donc aussi leur enfant, et il les reçoit dans sa demeure. Au fur et à mesure de l'arrivée, Callière reçoit les chefs les uns après les autres, et il reçoit Condiaron, ce Huron Wendat, 75 ans. Alors voici ce qu'il dit. « Notre père, tu nous vois auprès de ta natte, ce n'est pas sans beaucoup de périls que nous avons essuyé dans un si long voyage. Les chutes, les rapides et 1000 autres obstacles ne nous ont point paru si difficiles à surmonter pour l'envie que nous avions de te voir et de nous assembler ici. Nous avons trouvé bien de nos frères morts le long du fleuve. Notre esprit en a été mal fait. Le bruit avait couru que la maladie était grande à Montréal. Tous ces cadavres rongés des oiseaux que nous trouvions à chaque moment en étaient une preuve assez convaincante. Cependant, nous nous sommes fait un pont de tous ces corps sur lequel nous avons marché avec assez de fermeté. C'est tiré de Bagueville-la-Poterie. Des conseils sont donc tenus à chaque jour où on débat et on cherche des solutions aux problèmes de l'heure. Alors, un des problèmes, c'est la surchasse. On en débat. Les prix français que l'on trouve trop élevés. Les Français discutent de leur projet de fonder Détroit. On disait à l'époque le Détroit parce qu'on l'a fondé sur les deux côtés de la rivière. On débat aussi des nombreuses tensions entre les alliés et des accrochages. On débat de la vente de l'eau de vie qui trouble l'esprit. Mais surtout, on débat du refus des Iroquois de ramener leurs prisonniers. Parce que tout le monde a ramené ses prisonniers, sauf les Iroquois. Et là, tout risquait de basculer. Le 1er août, Condiaron tombe gravement malade. Il fait un dernier discours, un grand plaidoyer pour la paix, malgré le non-retour, et il meurt un peu après. Le 2 août, on lui fait des funérailles grandioses à l'église, je crois que c'est Notre-Dame de Montréal, enfin l'église de Montréal, évidemment pas l'actuelle. Condiaron était catholique. Il y a donc un long cortège de soldats, suivi des guerriers hurons, vêtus de robes de castor, le visage peint en noir. Une robe de castor, ce n'est pas une robe au sens contemporain. Une robe de castor, c'est une grande couverte de peau de castor avec laquelle on se couvrait. Et qui souvent, quand on la portait, le cuir à l'extérieur était orné de magnifiques peintures ou dessins. Donc, suivent les guerriers hurons, le visage peint en noir, le clergé, les chefs portant le cercueil. La famille de Condiaron était là. Toutes les délégations suivent, les notables de Montréal, bref, tout le monde y participe, et Condiaron est enseveli dans l'église, qui est évidemment un honneur réservé aux notables. Le lendemain, le 3 août, le rhume se répand, la rumeur de mauvais sort qu'auraient jeté les Français, peut-être qu'ils ont réuni tous les ambassadeurs ici pour tous les faire mourir. Alors Callière, entendant ces rumeurs, décide de procéder au plus vite à la ratification et fait préparer une grande enceinte hors les murs. On ne sait pas exactement le site, mais pas très loin de l'enceinte de Montréal. Alors nous arrivons à la journée du 4 août 1701, la journée de la ratification. C'est donc une grande cérémonie protocolaire inspirée des traditions diplomatiques et des Amérindiens et des Français. Pour les Amérindiens, ce qui compte, c'est l'engagement formel, c'est-à-dire la parole échangée, portée par le wampum sacré, suivie de la circulation du calumet que l'on fume et de la fumée dans laquelle on baigne. Ça, c'est l'acte de ratification. Et c'est ainsi que 31 colliers sont échangés. Donc, à chaque collier, il y a un discours, ensuite il peut y avoir une réponse, ensuite on fume le calumet, puis ensuite un deuxième. Bon, alors la journée, bien sûr, il y a passé. Pour les Français, évidemment, c'est pas la parole échangée qui compte, c'est la signature, ce que les Amérindiens normalement ne font pas. Alors les Amérindiens vont apposer au bas du document leur marque. Vous allez trouver ça sur Internet, tapez paix 1701, vous allez voir le document. Donc, les chefs amérindiens apposent leur marque ou leur emblème, selon le cas, celui de leur nation, de leur village ou de leur clan. On identifie 39 marques sur le document, mais parfois, c'est difficile de dire est-ce qu'il y en a une ou deux, parce que est-ce que c'est les deux parties de même dessin ou il y a deux dessins. En gros, on pourrait dire, peut-être d'autres diraient 40, mais enfin, 39 marques sur le document. Deux qui renvoient probablement à un orateur, c'est-à-dire que c'est comme si pour l'orateur amérindien, ce qui compte, c'est la parole qu'il a tenue et qu'il a transmise. Ce n'est pas le document. Alors, ce qu'il dessine, c'est lui-même en train de parler, avec pas une bulle, mais quasiment une bulle, comme dans les bandes dessinées. On représente aussi 29 animaux réels ou surnaturels qui ont probablement une valeur totémique, comme une tortue, un oiseau du tonnerre, un castor, un rat musqué, une grenouille, un arbre, un chicot avec trois racines, c'est un, Gymnocladus, comme tout le monde l'avait reconnu. Il y a cinq objets, des plumes, perches avec scalp, j'en ferai pas la liste, deux références à des lieux, dont une carrière, probablement une carrière de catlinite. La catlinite, c'est là où on obtenait cette pierre, la catlinite, avec laquelle on faisait le foyer des calumets. Donc, ça a un caractère, encore une fois, sacré. Les Européens sont vêtus de leurs plus belles étoffes, portent perruques et chapeaux, mais couvrent leur corps, alors que les Amérindiens élégants se présentent à corps découvert, font voir leurs tatouages, leur peinture corporelle, leur grande coiffe de plumes. Il y en a un qui porte une tête de bison. On a des bijoux de nez, d'oreilles ou de bras portés sur la peau qui gardent la trace de l'animal, c'est-à-dire on voit la griffe, on voit la dent, on voit l'andouillé, ce qui n'est pas la tradition européenne. On porte certainement des peaux peintes et la journée prend fin avec des chants, des danses et un festin avec la viande de trois bœufs ou trois bœufs, je ne sais pas comment on dit. La paix était donc ratifiée et métaphoriquement, non pas réellement, on avait planté l'arbre de la paix sur la plus haute montagne et sa racine allait rejoindre toutes les nations où qu'elles soient. Retenons aussi de cette journée du 4 août 1701 la profondeur de notre histoire commune, également celle de notre profond métissage réciproque. Retenons enfin que le 4 août 1701 a mis fin à plus d'un siècle de guerre, ce qui n'est pas rien. Quatre décennies de paix ont suivi. Voilà un précieux legs de nos ancêtres. À nous d'en faire le départage. Je reprendrai en terminant ce qui est peut-être une entourloupette, mais je reprendrai en terminant, et à ma manière, les paroles de Condiaron. Faisons un pont de tous nos ancêtres pour marcher avec assez de fermeté. Voilà.
Dix journées qui ont fait le Québec, c'est 10 dates clés qui vous permettent de découvrir les grands moments de notre histoire. Et c'est un rendez-vous sur Vox et sur Illico pour tous les amoureux de l'histoire. À la prochaine.